Deuxième partie de l'émission consacrée au parcours de Mitra. Arrivée d'Iran en 1985, Mitra est maintenant naturalisée française. Elle vit à Montpellier depuis de nombreuses années. Mais avant Montpellier, Mitra a vécu à Dole, dans le Jura, où d'ailleurs elle a rencontré l'amour de sa vie, son mari, le père de ses enfants, un Chilien. Vivre dans une ville moyenne lui a sûrement permis de s'intégrer facilement dans la société française et de ne pas s'engager dans un repli communautaire. Nous l'entendrons dans cette émission, Montpellier, avec sa communauté iranienne, est l'occasion de renouer avec ses racines, car même si elle ne souhaite plus vivre en Iran, avec l'âge, dit-elle, elle a besoin de retourner aux racines perses. Dans la première partie de l'émission, nous avions laissé Mitra à Dole. Elle y est encore, mais très vite, elle arrivera à Montpellier, aboutissement de son parcours en France. Nous l'entendrons sur son lieu de travail, tout près du baby-foot. Elle, qui est comptable, se nourrit aussi des personnes qui sont dans ce foyer, de jeunes travailleurs castellanes, des personnes immigrées parfois qu'elle aide au mieux. Ils sont aussi le reflet de sa propre histoire. Donc vous êtes à Dole dans ce foyer de jeunes travailleurs, vous rencontrez l'amour de votre vie, un ressortissant chilien qui va devenir votre mari, le père de vos enfants. Donc là c'est très fondateur. Combien de temps ça va durer cette période avec le FJT? Et est-ce que vous avez eu des difficultés à trouver du travail? Et puis on en arrivera peut-être aussi à l'obtention de votre nationalité. Hein.
D'abord j'ai rencontré un stagiaire, son père il était directeur de service technique de l'hôpital de Dole. Alors elle est venue me dire que mon père il cherche une dessinatrice ou un dessinateur pour refaire les plans d'hôpital parce qu'il s'y trouve plus. Bon, j'étais embauchée là-bas un an, mais c'était un CDD. Et après, par billet de foyer, justement, de personnel de foyer, j'ai pu obtenir une poste de dessinatrice en bâtiment chez un architecte à Dole. On a quand même rapidement, on a trouvé du travail. Ça, je peux dire, d'où je vous ai dit, dans les petites villes, des fois, c'est beaucoup plus intéressant de vivre et de commencer sa vie. Il y a plus de contacts, il y a plus de facilité, je pense, pour trouver du travail. Comme on avait du travail, on a eu la carte de séjour et ils m'ont dit qu'après 5 ans, à l'époque c'était la législation, c'était ainsi, après 5 ans de résidence, on pourrait demander le droit de naturalisation. Pendant ce temps-là, j'ai quand même fait un petit stage de remise à niveau encore à Dijon. J'ai rencontré une Iranienne, Madame Sadr, Fariba Sadr, dans ce stage à Dijon. Quelques années plus tard, il m'a téléphoné. Il était à Montpellier. Il m'a téléphoné. Voilà, j'ai un cousin ici qui est directeur dans un bureau d'études et il cherche actuellement des dessinateurs. Est-ce que ça te dirait de venir ici? Bon, je crois que Sud de France, ça fait rêver tout le monde. Je dis pourquoi pas. Je suis descendue à Montpellier et mon mari, il a démissionné, il m'a suivi. Juillet 90, on est descendu à Montpellier et j'ai commencé à travailler dans ce bureau d'études qui n'existe plus maintenant.
90, il y a quand même un autre événement important, c'est que la guerre entre l'Iran et l'Irak s'achève. Pour vous, est-ce qu'à ce moment-là, vous vous êtes posé des questions?
Non. C'était pour quitter l'Iran parce que ça ne me convenait absolument pas. La politique et la mode de vie, ça ne me convenait absolument pas. Ce n'était pas le mode de vie que j'envisageais dans ma vie. Et de vivre avec le foulard et tout, c'était niet. Dès le départ, je savais que je quitte le pays pour toujours. J'étais décidée. C'était pour toujours. C'était une chance que j'ai rencontré un beau Chilien. Je suis tombée amoureuse et bon, j'ai fait ma vie ici. Mais ça a été vraiment décidé.
Dessinatrice dans un bureau d'études ici à Montpellier. Il se trouve que le bureau d'études, ça ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce qui se passe après?
Ici, on a une communauté iranienne qui est beaucoup plus importante. J'avais déjà repéré quelques amis par biais de ma copine, Madame Sadr. Et c'est eux qui m'ont proposé que telle personne qui a une supérette cherche une salariée, est-ce que tu veux bien y aller ? Je suis allée les voir, ils m'ont accueilli bras ouverts, très gentille famille qui sont restées vraiment une famille très proche pour moi, comme une grande sœur et un grand frère, ils m'ont aidée. Et plus tard, ils ont ouvert une autre supérette, ils m'ont laissé la gérance de cette supérette. Et je me suis dit, bon, je ne veux pas refaire toute ma vie la gérance de l'alimentation, c'est pas possible. Il faut que j'entame, maintenant que je suis un peu plus posée, j'entame mes études. Et bon, jusqu'à maintenant, j'ai fait énormément de démarches, soit en ingénieur civil, soit en informatique. C'était deux branches qui m'ont plaisé. Mais là, après cette expérience, je dis non, cette fois-ci, c'est vraiment la gestion de la gestion. Et c'est comme ça que je suis allée à l'IUT de Montpellier, je me suis renseignée. Et j'étais enceinte de mon premier enfant. Pour mes études, j'avais pas assez de droits par rapport à la CEDIC. J'étais obligée de travailler encore. J'ai pu trouver dans une association de Convergence 34, j'ai pu trouver du travail. J'ai fait un CES et deuxième année de mon travail, j'ai cumulé assez de points pour pouvoir faire ma formation. Mon fils, il avait 12 ans à peu près quand j'ai commencé mes études à l'IUT de Montpellier. Et j'étais enceinte de deuxième.
Beaucoup de courage, on peut le dire comme ça. Ensuite, donc vous avez un diplôme de gestion. Et c'est tout de suite après que vous êtes devenue comptable du FJT où nous sommes, le FJT Castellane.
J'ai passé 4 mois de cauchemar de ma vie, je pense. C'était, si on me demande les pires moments de ma vie, c'était ces 4 mois que j'étais au chômage. J'avais pas du travail et je suis pas quelqu'un qui peut rester à la maison sans travail. Parce qu'à 7h du matin, pile, j'étais devant la MPE, j'avais au moins je récupérais 3 à 4 annonces. Alors, soit dans ma branche, soit ce que je pourrais faire. Et en même temps, j'envoyais 4 à 5 lettres par jour spontanément. C'est des lettres spontanées, des candidatures spontanées. Et un bon jour, c'était mois de janvier ou février, je suis tombée malade pendant un mois, 40 degrés de fièvre au lit. Et après un mois, et j'arrivais pas, les médecins, ils arrivaient pas à trouver quoi que ce soit. Et après un mois, un bon jour, je me suis réveillée. Et j'ai pris une annuaire des experts comptables et j'ai envoyé 40 CV. Je me rappelle très bien ce jour-là. 40 CV plus lettre motivation à 40 experts comptables. Ce jour-là, j'ai commencé à cocher, je les ai envoyés. Quelques jours plus tard, j'étais contactée par ma directrice, Madame Simon, la directrice des foyers jeunes travailleurs, en disant que voilà, mon expert comptable m'a donné votre CV et on cherche un comptable. C'était le jour, le plus beau jour de ma vie. Je suis venue la rencontrer et c'est 3 jours après, je crois que j'ai rencontré l'expert comptable et trésorier de l'association. Et une semaine après, ils m'ont annoncé que, je pense que dans cette heure-là, une semaine après, ils m'ont annoncé qu'à partir du 1er avril, je peux commencer mon travail. C'est joli ce que tu fais, Mag. Elle est en train de dessiner la photo des stagiaires qui va partir et s'agirait. Et qu'on va faire un pot ce soir pour lui.
C'est moi qui l'ai appris à dessiner. Ah.
C'est Julien.
Hop. Il y a combien de jeunes déjà dans le foyer ?
Ici, 50 à 55, mais on a 60 lits. On a la capacité de 60 lits, mais ça dépend. Il y a des chambres doubles ou des fois, il y a une seule personne qui les occupe. Et bon, il y a un turnover quand même. Ils sont là 3 à 4 mois. Après, bon, il y en a certains qui restent 2 ans. Maximum de durée, c'est 2 ans. La durée de séjour chez nous. Et après, bon, avec notre service de boutique logement, on les aide pour trouver autre chose à l'extérieur. C'est une étape entre le cocon familial et l'indépendance. Et pour les gens qui sont là pour quelques mois, ça leur fait un séjour dans un endroit sympa, pas trop cher, qui va avec leurs revenus, parce qu'ils ont souvent des revenus modestes, et avec des personnels superbes. Bien entendu.
Et est-ce qu'il y a des jeunes qui sont d'origine étrangère ?
Si, on reçoit beaucoup et c'est bizarre d'ailleurs, ça passe par bouche à l'oreille. On dirait. À un moment donné, par exemple, on avait une équipe qui venait tous de Colombie. C'est Chambre de commerce de Colombie qui avait des contacts avec Chambre de commerce de France. Et les étudiants qui venaient, ils nous envoyaient. Si, on a pas mal d'étudiants étrangers qui viennent ici aussi. Alors, des fois, ils sont sur Montpellier. C'est l'office de tourisme qui les gère vers nous. Il y en a des autres organismes aussi, parce qu'on est quand même connu sur le logement pour les jeunes. Et des fois, c'est sur Internet. Ceux qui connaissent bien, qui existe ce système d'auberge de jeunesse ou foyer jeunes travailleurs, sur Internet, ils trouvent nos coordonnées, ils nous contactent, et nous, on leur dit comment vous pouvez faire les démarches. On leur précise les démarches.
Ça provoque un petit écho particulier, ces jeunes étrangers, notamment par rapport à vous, votre parcours ?
Des fois, si. Je n'aime pas faire la différence, mais bon, déjà, quand je vois qu'ils ont du mal à se trouver au niveau de l'administration, au niveau de langue, comme c'est un parcours que j'avais, c'est normal. Je les comprends mieux et j'essaye de les aider. Mais par contre, à un moment donné, j'arrête parce que c'est pas de tout bon de trop assister à. Bonjour. Bon, j'y vais parce que j'ai mes clients qui arrivent. À tout à l'heure. Bonjour.
On le rappelle pour les auditeurs qui n'ont peut-être pas suivi le début de votre parcours. Quand vous êtes arrivé en France, vous êtes arrivé dans un foyer de jeunes travailleurs à Dole, dans le Jura. Vous avez rencontré votre mari là-bas et il se trouve que quelques années après, vous êtes encore dans un foyer de jeunes travailleurs. Voilà. Comment vous expliquez ça, Mitra ?
Je n'en sais rien. Déjà, ma démarche en Iran, ça aboutit à venir en France sans beaucoup de difficultés. J'ai eu ma carte de séjour, j'ai eu ma nationalité, je ne sais pas. Ça a déroulé, mais c'est vraiment le destin, je pense. Je crois beaucoup en destin, je pense que c'est le destin aussi. Et j'ai le travail que j'aime, et je suis au service des jeunes, dans une association où on fait énormément de choses pour les jeunes, et c'est ce que j'aime. Et en plus, je fais un travail comptabilité, ce qui me plaît bien. Et c'est l'heure de récré pour moi. Je m'en distrais et je fais connaissance des super sympas clients.
Donc il y a une partie animation dont vous parliez aussi. Ça, c'est important, le contact avec les personnes.
C'est très important parce que je pense que c'est dans... Le repas ne fait pas tout. Il faut qu'on mange dans un environnement où il y a de l'animation et on est bien. Alors, j'essaie de m'en occuper de ce parti animation, ce qui me plaît beaucoup dans ce travail d'ailleurs, parce qu'il y a le côté logique, côté sérieux de l'affaire, après côté social. Le temps qu'on passe avec les gens, qu'on les aide pour l'insérer dans la société. Et côté l'animation, à laquelle j'y tiens, parce que je fais connaissance aux gens et j'espère être à la hauteur et de leur préparer une heure et demie l'ambiance conviviale et sympa.
On peut parler de vos enfants. Vous avez deux enfants donc, qui sont nés français. Comment ça se passe pour eux dans la société française ? Alors, vous avez dit que la société française n'était pas cloisonnée, que c'était multiculturel et que les gens s'échangeaient. C'était pas comme l'Allemagne, pas l'Angleterre. Mais voilà, comment ils vivent la France et comment ils vivent leur famille avec d'un côté une Iranienne, de l'autre côté un Chilien ?
Comme on a vécu toujours à la mode française, si je peux dire, pour eux, ils sont français déjà. Ils sont français. Je les ai emmenés il y a 3 ans en Iran. Ils ont vu leur famille, les cousins. Bon, il y a quand même une grande famille derrière. Ils l'ont vu. Mais pour eux, c'est bon, c'est la famille. Mais ils sont français, ils vivent en France. Et on n'a pas ce mentalité que je vis à l'Iranien, son papa vit au Chilien. Et ça, on ne l'a pas de tout ça. Au niveau des coutumes, ils connaissent les coutumes français, les coutumes chiliens. Au niveau d'alimentation, ils connaissent très bien les différences, mais on est quand même multiculturel avec tous les amis qu'on a des différentes cultures. Pour eux, il n'y en a pas une différence et ils sont français.
Vous venez d'Iran, vous avez gardé un contact avec la langue perse ou la langue iranienne? La langue perse, enfin, moderne.
Farsi, nous on dit Je pense que vous dites persan, vous, et nous on dit farsi, si vous voulez, c'est la langue persan.
Quel rapport vous avez avec cette langue? Est-ce que vous continuez à la parler? Est-ce que ça a formé votre identité? Enfin, comment ça se passe?
À une époque, bon, j'avais moins de contacts tout au début quand j'étais là. C'est vrai que je ne parlais pas trop, et comme je voulais vraiment apprendre le français, je lisais que français, et j'ai les contacts qu'avec des Français. Mais bon, en venant à Montpellier, j'ai commencé à rencontrer quand même plus de monde. On a une association culturelle franco-iranienne sur Montpellier. On se rassemble quand même une fois par mois et notre président nous organise toujours des manifestations culturelles, soit la musique, soit des écrivains qui viennent, qui parlent de leurs livres. Alors, on a quand même de contacts, et en vieillissant, je pense que je commence à aller un petit peu vers mes racines. Je commence maintenant quand même à lire les livres iraniens, surtout les poésies iraniennes qui sont très jolies. Je commence un petit peu à m'intéresser à lire, mais j'ai toujours mes contacts, comme j'ai des contacts avec la famille. Je ne pourrais pas l'oublier, cette langue. Les hommes, malheureusement, je n'ai pas parlé avec mes enfants. Ils ne le parlent pas, ils comprennent un petit peu. Mais bon, j'espère bientôt ils commencent à s'intéresser aussi.
Ça viendra d'eux pour vos enfants, parce que peut-être qu'ils connaissent déjà l'espagnol, qui peuvent apprendre dans le système scolaire.
Non, même en espagnol, comme je les ai mis en langue anglais-allemand, en espagnol ils sont pas très forts non plus. Mais bon, on a décidé maintenant de les envoyer un petit peu dans les familles, comme ça peut-être ils apprendront en contact avec la famille. Avec les cousins, cousines, peut-être en contact, ils apprendront. Mais bon, c'était une choix. Peut-être que ce n'était pas une bonne choix, parce que quand même, les enfants, ils pourraient devenir trilingues. Malheureusement, on ne l'a pas fait. Mais bon, maintenant, on commence à y penser. J'espère que ce n'est pas trop tard.
Dans votre parcours, qu'est-ce qui vous semble le plus déterminant par rapport à cette fameuse intégration? Est-ce que c'est le fait d'avoir rencontré des Français, et que des Français aient décidé de vous aider ou d'être là tout simplement, que vous ayez des amis français? Est-ce que c'est simplement votre courage? C'est quoi en fait?
Quand je suis modeste, je dis que c'est mon courage. Je suis très modeste. Non, qu'est-ce que ça a été déterminant? J'avais choisi de vivre dans ce pays et je me suis dit, je veux vivre ici, il faudra que j'aille au-delà de ça et que je sois digne de mes parents. Je pense que c'est ça. Je voudrais surtout que mes parents soient fiers de moi. Je ne dis pas que j'ai réussi beaucoup, beaucoup, mais je crois que je me suis pas mal sortie. Et je crois que tout mon parcours, c'était marqué l'idée que mes parents soient fiers de moi. Et normalement, je suis quelqu'un que je ne lâche pas une idée qui est dans la tête, je ne le lâche pas facilement. Mais après, bon, sûrement, il y en a autre facteur qu'on n'y pense pas, mais qui nous aide aussi. C'est peut-être parce que, bon, c'est mes enfants, ils sont nés ici, ils vont rester toujours en France, et du coup, nous, on restera toujours dans ce pays. Et je peux vous dire que quand on va à l'étranger, c'est la France qui nous manque. Ça, c'est sûr et certain, c'est chez nous, en France, à Montpellier, qui nous manque.
Il y a peut-être une autre question, Mitra, c'est le regard des autres. Quand on vient d'un autre pays, qu'on cherche à s'intégrer, c'est le regard des autres. Est-ce que ça, vous en avez souffert ou pas du tout?
Je n'ai jamais rencontré le racisme, si vous voulez. C'est ça le mot, peut-être. Le racisme, je ne l'ai jamais rencontré. Je sais qu'il y en a par peut-être maladroite, on dit. Et ils ont dit des choses qu'il ne fallait pas qu'ils le disent, mais ce n'était pas méchamment envers moi. Parce que j'allais toujours vers eux, pour eux, j'étais quelqu'un qui vraiment s'intéresse à s'intégrer. Je n'ai pas rencontré le racisme, mais des fois, leur indifférence par rapport à ce qui passe chez nous, ça m'a dérangé. C'est ça qui m'a dérangé, peut-être. Je dis, mais bon, c'est pas leur faute non plus. Maintenant, quand je regarde, c'est pas la faute des gens. Les gens n'ont pas vécu la situation que nous, on a vécu en Iran. Ils ne peuvent pas être sensibles. Comme moi, maintenant, je vois avec tout ce qui se passe en Afrique, ça me touche, mais pas plus. Je ne suis pas si sensible qu'un Africain qui arrive en Afrique, qui a larmes aux yeux quand il parle de la situation de son pays. Mais honnêtement, on n'a jamais, ni mon mari ni moi, on n'a jamais été touchés par le racisme.
C'est C'était une émission en deux parties avec Mitra, française d'origine iranienne arrivée en France en 1985. Son parcours, son courage, sa pugnacité et son plaisir audible d'être dans un pays où en tant que femme elle peut s'épanouir. Elle ne l'a pas dit, mais elle aime danser la salsa avec son mari, c'est pourquoi on se quitte avec de la salsa qui nous vient de Finlande. Mais les autres musiques que vous avez écoutées, elles étaient de Mohamed Reza Shajarian.